Cette semaine aura été marquée encore et toujours par la Syrie, dans les combats et l'exode de sa population jour après jour. L'UNICEF continue son travail dans le pays même, mais c'est surtout auprès des populations réfugiées dans les pays voisins, Liban, Jordanie, Irak, Turquie, que l'UNICEF intervient en urgence. Surtout auprès des enfants, il serait déjà près de 100 000 à avoir fui la Syrie. Charbel Radji, d'UNICEF Moyen-Orient Afrique du Nord, nous racontait.
Les enfants subissent les bombardements et les combats au sein et autour de leur communauté. Ils ont été témoins à des horreurs qu'aucun enfant ne doit connaître. Des amis ou des proches qui ont été tués ou blessés, leurs maisons, leurs écoles totalement détruites. Un grand nombre de personnes ont trouvé refuge dans les écoles, dans les mosquées, ou même n'ont pas trouvé de refuge. Ce qu'ils avaient à faire, c'est trouver refuge dans les pays voisins avec même pas un sac sur leurs épaules, avec à peine les habits qu'ils portent.
Au plus près des combattants de tous bords, un médecin français, cofondateur de Médecins Sans Frontières, Jacques Berès, est en Syrie. De retour d'une mission de 15 jours à Alep, sa troisième en territoire syrien depuis le début du conflit, où il officiait dans un hôpital de la zone libérée, il nous racontait ceci.
Cet hôpital, il était tout près de la ligne de front à Alep. Donc, les combattants blessés, ils arrivaient en 3 minutes, si vous voulez, pas plus. Ils étaient touchés, leurs copains les prennent sous les épaules, les tirent, ils les mettent dans une voiture, la voiture fonce avec le klaxon bloqué sur des routes désertes, et ça arrive à l'hôpital en 3 minutes, ce qui fait qu'on a pu en sauver pas mal. Et parmi ces combattants, il faut dire qu'il y avait un nombre, une proportion non négligeable de djihadistes. L'armée syrienne libre dit on est obligé de les accepter puisqu'ils font la démarche de venir se battre pour nous, c'est la moindre des choses qu'on les accepte. On gère la situation, on contrôle, on fera attention, mais bon, je ne sais pas s'ils se rendent vraiment compte du danger potentiel que ça représente.
Aux Nations Unies à New York, toute la semaine, de nombreux chefs d'État ont pris la parole pour l'Assemblée Générale. Parmi eux, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a demandé le statut d'État non membre à l'ONU. Qu'est-ce que cela changerait concrètement pour la Palestine? Bernard Bottivot, chercheur au CNRS, nous répondait.
Ça permettrait d'être accepté dans toutes les organisations spécialisées de l'ONU, qu'il s'agisse de la culture, de la santé, de l'éducation. Enfin, donc ça, c'est quand même un avantage de visibilité. Ça peut apporter pour la légitimité internationale. Ça permettrait théoriquement, en tout cas, de dire à Mahmoud Abbas qu'il est à la tête d'un État reconnu par la communauté internationale.
Et puis une première en 25 ans. Reporters sans frontières était cette semaine en mission en Birmanie. Le directeur général de RSF, Christophe Deloire, revenu à Paris il y a quelques jours, évoquait pour nous la situation des journalistes sur place qui s'est améliorée considérablement.
On a vu des journalistes qui font l'apprentissage progressif avec des restrictions de la liberté, mais qui quand même apprennent la liberté, ont une envie de formation pour devenir ce qu'ils appellent des vrais journalistes. On est allé voir Win Thin, c'est une sorte de Mandela birman. C'est un journaliste célèbre en Birmanie, qui a été l'adjoint de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, la grande opposante birmane, et qui a été arrêté le 4 juillet 1989 et a été condamné à 20 ans de prison. Il en a purgé 19. Au moment des 75 ans de Win Thin, à l'époque il avait déjà passé 16 ans en détention, Reporters sans frontières avait publié une affiche qui lui est parvenue. On l'a vu sur son mur, chez lui, c'est extrêmement émouvant. C'est quelqu'un, à l'ouverture d'une conférence sur les médias, qui a serré la main du ministre de l'Information. Et là, il y avait un symbole extrêmement fort. Win Thin serre la main du ministre de l'Information, qui lui-même, alors on n'en est pas encore au stade où il présente ses excuses aux prisonniers politiques, mais propose un chemin d'ouverture.
Une information créée cette semaine, quelques questionnements après le luxe et le sport. Le Qatar investit dans les banlieues françaises. Une annonce qui laissait le père Jean-Marie Petitclerc sceptique, prêtre catholique salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé. Il est expert des questions d'éducation dans les zones sensibles.
Il s'agit à la fois d'une opportunité et d'un risque. Une opportunité parce que effectivement la banlieue a besoin d'argent en termes de développement de projets et avec la crise qui secoue aujourd'hui notre pays, il y a deux incidences. Là, c'est une plus grande précarité des jeunes, des familles et puis une diminution des subventions publiques. Donc on pourrait dans un premier niveau de lecture se dire c'est une opportunité. Deuxième chose, c'est qu'à mon avis il y a quand même un risque. Bon, le risque c'est toujours le développement du communautarisme. Je crois qu'on est toujours dans cette logique de ghettoisation qui peut être renforcée et que ça ne solutionnera pas vraiment le problème actuel de la ville.
Et puis, les présidents des 33 conférences épiscopales d'Europe étaient réunis en Suisse au centre des réflexions les défis posés à l'Europe en ces temps de crise économique et sociale. Les évêques s'inquiétaient notamment de la désaffection et du désintérêt patent des citoyens à l'encontre des institutions européennes. C'est en tout cas ce que nous disait vendredi Mgr André Léonard, l'archevêque de Malines-Bruxelles.
Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'Européens aujourd'hui, hélas, perdent leur intérêt pour la politique. Je crois qu'une des raisons, c'est que on ne perçoit plus assez dans la construction de l'Europe un enjeu humain. On voit très bien qu'il y a un enjeu économique, avec des aspects positifs et des aspects contestables. Un enjeu politique, on le voit aussi, avec du positif et du négatif. Mais peut-être manque-t-on de percevoir dans le projet européen un projet humain, culturel, qui donne un idéal. Et ce qui est tragique à certains égards, c'est que l'Europe a un trésor sur le plan spirituel. Et nous risquons de l'oublier. Et donc je crois que l'Europe a besoin de témoins, de prophètes qui lui font reprendre conscience de son héritage, de son passé, mais ouvre aussi un idéal, une perspective orientée vers l'avenir.